être un peu annexe comme sujet, puisqu'il y a quand même des gens qui meurent et qu'on associe beaucoup l'écologie à des arbres et une problématique parallèle. Mais comme le dit Bissan, une jeune journaliste palestinienne, nous avons toutes pu voir sur nos écrans l'ampleur des destructions à Gaza, mais aussi à Jénine en Cisjordanie. On parle, en dehors des morts, de quartiers, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, mais aussi de cultures et de points d'accès à l'eau qui ont été ciblés volontairement. En ce qui concerne les terres agricoles, l'entité sioniste empêche les Palestiniens de s'en approcher. L'accès à l'eau et à la nourriture est devenu quasiment impossible. 100% de la population à Gaza est menacée de famine, selon l'ONU. La destruction des écosystèmes, des arbres, des plantes, des animaux est inséparable du projet d'anéantissement du peuple palestinien qui habite cette terre. Le génocide et l'écocide vont donc de pair. La question qu'on voudrait poser en premier, c'est comment, dans ce contexte de destruction coloniale en Palestine, on redessine les rapports des peuples à la terre, à l'eau et à l'écosystème. Fatima, si tu veux en parler.
Vous m'entendez ? Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez ? Salam alaikum. Je suis ravie d'être avec vous, avec les camarades ici présents, présentes et face à vous. Merci beaucoup aux organisatrices pour l'invitation qui m'honore. Le lieu est incroyable, je le découvre. La question aussi qui nous est posée est vraiment très, très, très importante. Il fallait oser parce qu'on hésite souvent à associer ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe ici, dans cette France hexagonale et précisément dans les quartiers populaires. On hésite pour de bonnes raisons, par pudeur, par décence. On n'ose pas, en fait, comparer un génocide avec les violences pourtant systémiques que subissent nos enfants. On n'ose pas parce qu'on se dit c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Il faut avoir un petit peu de décence avant de comparer. Mais on a raison de comparer en réalité parce que ce qui se passe à Gaza nous concerne ici aussi. Pas simplement parce qu'on est humain et qu'on ne supporte pas de voir voilà, ce génocide sous nos yeux. Aussi parce qu'on sait bien que ce qui se passe à Gaza, en fait, nous concerne au sens où ça peut nous arriver, ça peut arriver à nos enfants, et je pense que c'est vers là qu'on ira tout à l'heure. Le lien entre génocide et écocide, tu disais tout à l'heure, on peut aussi hésiter à le faire, et en réalité, ce sont deux entreprises, génocidaires et écocidaires, qui sont intimement liées en Palestine, mais en réalité, ça a toujours été lié. J'ai un exemple. Vous savez, on entend souvent en manifestation le slogan « L'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra ». On entend aussi « Le Vietnam a vaincu, la Palestine vaincra », parce qu'il y a cette même entreprise liée à la colonisation de peuplement. Je me permets de lire un petit extrait d'un livre « Terre et liberté », un extrait d'un texte qui a été signé par un collectif qui s'appelle « Le Vietnam Dioxine ». Et qui lutte notamment dans le cadre d'une affaire judiciaire pour que soient reconnues les conséquences de l'épandage de l'agent orange au Vietnam. Concernant l'écocide, il rappelle que l'écocide a été défini en 1970 par un certain nombre de chercheurs en lien avec l'épandage de l'agent orange au Vietnam. Ça, il faut le savoir, le terme même d'écocide est né dans cette histoire coloniale liée au Vietnam. Et Vietnam Dioxine explique que les conséquences sont doubles, et sanitaires et écologiques. Je peux me permettre de lire le passage. Le plan sanitaire, d'une part, la dioxine de l'agent orange cause de nombreuses pathologies aux 2,1 à 4,8 millions de victimes directement exposées aux épandages. S'ajoute à celle-ci un nombre indéterminé de victimes sur le long cours dues à la transmission héréditaire de ces pathologies qui dépassent les frontières et jettent un voile sur les véritables causes de décès précoces à travers le monde. Le plan écologique, d'autre part, la présence de dioxine est encore massive, dans les espaces touchés. Pernicieuse, elle persiste dans les terres, l'eau et contamine depuis plusieurs décennies les espaces et le vivant. Elle est responsable de la disparition de nombreuses espèces, dont le rhinocéros de Java et les dauphins d'eau douce, et de la poussée des eaux, herbe américaine, qui étouffe toute autre végétation en imposant un colonialisme végétal. Ce qu'il faut comprendre de ce passage, c'est que pour les colons, ce qu'on ne tue pas aujourd'hui, on essaie de tuer le maximum aujourd'hui, mais ce qu'on ne tue pas aujourd'hui, il faut essayer de faire en sorte de le détruire demain à petit feu. C'est ça le lien entre génocide et écocide. Ce qu'on ne tue pas aujourd'hui, les enfants qu'on ne tue pas aujourd'hui, puisque vous le savez, une grande partie des visées du génocide, ce sont les enfants. Cette menace démographique, ces enfants palestiniens, un enfant palestinien, c'est un enfant de trop pour l'État colonial et génocidaire israélien. Les enfants qu'on ne peut pas détruire aujourd'hui, en les bombardant, en les assassinant, en les affamant, ceux qu'on ne peut pas tuer aujourd'hui, en les mutilant, en les brûlant, ce qu'on ne peut pas tuer aujourd'hui, on va s'arranger pour les tuer demain. Alors comment ? J'essaie de faire pas trop long, mais la question du rapport à l'eau, à la terre, etc., renouvelée, voilà, je voulais prendre un petit peu de temps pour le définir. Comment ? Alors vous le savez, c'est la destruction des écosystèmes, de la biodiversité, c'est la pollution des nappes phréatiques, c'est la volonté de rendre inhabitable la terre habitée par les Palestiniens. Alors on pourrait dire, mais sont-ils bêtes, ces colons ? Ils détruisent la terre qu'ils veulent pourtant occuper. Mais la colonisation de peuplement ne vise pas simplement à s'accaparer des terres pour les habiter. Elle vise aussi à s'accaparer des terres pour avoir des sas, des barrières de sécurité. Donc en réalité, ils ne sont pas si bêtes. Les colons en question, quand on détruit la terre, pour toujours en réalité, parce qu'il y a là en fait des pollutions qui sont quasi irrémédiables, c'est pas forcément pour aller s'y installer, c'est pour faire en sorte que plus jamais les Palestiniens ne puissent vivre sur cette terre-là. Donc ça fait partie, cette entreprise écocidaire, elle fait partie de la logique de la colonisation de peuplement. Donc voilà, ces deux liens-là sont importants. Et puis je crois que j'ai déjà été trop longue, donc je vais laisser la parole aux camarades.
Merci beaucoup Fatima. Je me tourne peut-être vers le CHE3 et soulèvement de la terre. En quoi, d'après vous, ce dont on vient de discuter fait écho à nos luttes locales en termes d'écologie ?
Qui veut commencer, les amis ? Parce qu'on est à la radio en direct ou pas ? Ouais,
oui,
parce
toujours.
Que le blanc à la radio, ça fait peur, mais c'est pas grave, c'est qu'à la radio que ça fait vraiment peur. 88.4. Vas-y, je te passe la question.
Ouais.
Vous m'entendez bien ? Du coup, c'est une question assez vaste et complexe et je pense que Fatima a déjà dit beaucoup de choses sur cette chose-là. C'est vrai que du coup, moi, je fais partie du collectif Soulèvement de Mars, qui est un peu l'antenne locale des soulèvements de la Terre et plus largement des soulèvements de la Terre. Et c'est vrai que la question de comment est-ce que la thématique principale des soulèvements, ça a été de poser la question de l'accaparement de la Terre et l'accaparement de l'eau, et quelles étaient les techniques et les technologies d'accaparement de la terre et de l'eau, et du coup plutôt à partir du contexte local, comment est-ce que le complexe agro-industriel, comment est-ce que les grandes entreprises les grandes multinationales d'accaparement de l'eau qui mettent l'eau en bouteille et le vendent sur les marchés internationaux et tout ça, c'est plutôt par là qu'on est rentré dans les questions. Et c'est sûr que quand le 7 octobre a un peu contraint tout le monde à ne plus fermer les yeux sur quelque chose sur lequel on fermait les yeux depuis trop longtemps pour beaucoup d'entre nous, ça a été cette question-là de voir l'accaparement des terres et de l'eau dans ces versions sans doute les plus brutales et les plus violentes, comment elles se produisent là. Et du coup, la question de comment est-ce qu'on, depuis cet endroit-là, de lutter contre l'accaparement de la terre et de l'eau, on peut rentrer en solidarité avec les peuples palestiniens. Et du coup, ça a été aussi d'essayer d'un peu mieux comprendre, parce que si aujourd'hui, la version contemporaine militarisée, génocidaire de l'accaparement de terre et de l'eau, elle est particulièrement violente et flagrante, en réalité, c'est je la prends à personne, mais ça hérite de 75 ans de colonisation sioniste qui hérite elle-même de colonisation britannique auparavant. Et donc les technologies d'accaparement de terre et de l'eau, elles ne datent pas évidemment du 7 octobre. Et donc il y a toutes des stratégies qui ont été mises en place depuis assez longtemps de collecte de fonds, notamment par les sionistes pour faire des politiques de plantation de certaines essences qui viennent déstructurer les essences locales, etc. Il y a un paysagiste de Tzedek qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Nadav Joff, et je vous invite à écouter, je pense qu'il y a des vidéos de lui sur YouTube qui montrent vraiment comment est-ce que les politiques forestières ont été utilisées par l'entité sioniste comme une stratégie d'évacuation, etc. Et sur les questions de l'eau, c'est pareil aussi, il y a énormément de technologies de gestion de l'eau qui existent depuis fort longtemps, et ces choses-là, elles ont des relais locaux, et c'est de cibler ces relais locaux et de les pointer et de lutter contre.
Je te remercie. Je me tourne peut-être un peu plus vers le CHO3 en précisant ma question. On parlait du coup de détruire la terre, détruire les habitations, l'espace des gens pour qu'ils ne puissent plus y habiter. Est-ce que finalement c'est aussi une des raisons qui justifie cette lutte face aux conditions d'habitation dans le troisième qui sont déplorables? Est-ce que ça aussi, ça motive à lutter contre ça, se réunir et faire en sorte que ça reste habitable et qu'on puisse changer les choses?
Bonjour. Alors, en fait, nous, le collectif, on a compris que bon, déjà ensemble, on représente quelque chose. Et notre objectif, c'est justement plus de justice. Et cette histoire de guerre et de famine et comment on empêche par la guerre aussi que les gens puissent travailler leur terre et entretenir, gérer. Et cette aussi... stratégie en fait d'introduire des cultures qui n'ont rien à voir, enfin des choses dans le temps quoi, cette histoire d'assassiner les gens dans le temps. Nous aussi quelque part on a une alimentation aussi qui est déviante, qui est polluante, on fait beaucoup de gaspillage. Déjà cette prise en compte du gâchis qu'on fait de notre trésor naturel. Donc on essaie un peu comme ça d'être un peu créer un équilibre en fait, qu'un équilibre qui n'existe pas. On essaie de recréer cet équilibre avec ce qu'on mange et un contact avec les paysans. On va travailler en campagne et on essaie d'activer des liens qui sont en fait déterminants pour notre alimentation. Voilà.
Je vous remercie.
Oui, nous sommes le CH3, la voix de ce qu'on n'entend pas. Nous entendons aux côtés de celles et ceux qui vivent dans les logements indignés ou sont arbés. Nous refusons les décisions injustes qui ne servent pas le peuple. Nous cuisinons pour partager, nous cultivons pour vivre. Notre solidarité avec la Palestine est un engagement quotidien pour la justice et la dignité. Ensemble, construisons un monde plus humain.
Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, peut-être une dernière question et je me tourne en premier vers Stop Arming Israël. Donc, avec le CHO3 et l'intervention de Fatima, on voit bien le lien donc, entre la destruction et l'impact sur l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement, par exemple avec un exemple concret dans nos territoires, du salon de la mer et de la défense à Toulon ? Le lien entre donc ce désastre écologique et la question coloniale en pratique dans nos territoires.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez là ? Non, je ne l'ai pas éteint.
C'est bon ? Super. Bah, du coup, déjà, avant ça, dire que le continuum de violence sur les corps et sur la terre, il existe au-delà des rapports Nord-Sud, il existe au sein des pays du Nord. Parce qu'il y a aussi des formes d'apartheid ici. On sait qu'il y a des populations qui sont considérées comme surnuméraires, qui sont reléguées dans les périphéries des villes et qui sont donc exposées à toutes les nuisances sonores, qui sont reléguées vers les autoroutes, les aéroports, les usines et tout ça. Du coup, à Marseille, ici, on a l'exemple de Eurolynx, qui est une usine d'armement, qui envoie des maillons de munitions à l'armée israélienne. Et cette usine, elle détruit la terre en Palestine, mais aussi ici, puisqu'elle a été déplacée à Château-Gombert pour des raisons sanitaires et de santé publique. Donc au départ, elle était à quelques mètres de la plage de la Pointe-Rouge, donc plutôt beau quartier. Et les habitants se sont plaints de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de microparticules de plomb dans l'atmosphère et de dépôts de graisse sur les maisons. Du coup, suite à ces plaintes plutôt légitimes des riverains, plutôt privilégiés, l'usine elle est partie vers la Rose, où les habitants n'avaient pas forcément la même marge de manœuvre. De fait, il y a eu une mobilisation portée par le comité interquartier de la Rose qui est restée sans suite. Et donc, ça nous montre deux choses. Ça nous montre déjà comment la fabrique de l'oppression et la mise à mort des peuples du Sud, elle abîme aussi la santé des humains, ici, ceux qui sont considérés comme surnuméraires à l'intérieur du Nord global. Et ensuite, que l'industrie de l'armement, qui est très polluante, qui est aussi très robotisée, donc qui ne produit pas beaucoup d'emplois, elle renforce les inégalités en affectant les conditions de vie de certaines personnes. Et du coup, on voit aussi ici quels corps comptent, quels corps sont en surplus, et que certains ont le droit à un air respirable et à une vie salubre, d'autres pas du tout. Et on parle aussi là de conditions de vie affectées par l'environnement proche. Après, par rapport au salon, merci beaucoup, par rapport au salon Mer et Défense qui a eu lieu le 12 juin à Toulon, grosse dinguerie, c'est juste à côté de chez nous. Il n'y a pas grand-chose qui s'est fait pour contrer ça. Mais c'est vraiment un salon où tous les géants de l'armement, tous les marchands de mort s'échangent en fait des gros contrats d'armement, quoi. Donc notamment Thales, qui est très impliqué dans l'entreprise de colonisation israélienne. Et c'est aussi le partage de dernières technologies qui visent à contrôler et violenter les corps qui passent par la Méditerranée. Parce que ce salon, il travaille en partenariat assez étroit avec Frontex, et donc dans le renforcement de la frontière Europe. Du coup, c'est aussi l'occasion de rappeler que la France, puisqu'on est sur un salon mer et défense, elle détient la deuxième plus grande surface maritime au monde, ce qui contribue grandement à son statut géopolitique, et c'est pour ça que les pseudo-territoires d'outre-mer sont si importants. Et du coup, l'histoire impériale de la France, et notamment par ses anciennes colonies, les territoires ultramarins, c'est aussi une histoire de destruction des corps et de la terre, avec des zones étendues de pêche. Ouais, et je suis un peu trop long, je me fais taper sur les doigts, du coup. Voilà, mais il y a une exploitation vraiment de tous ces territoires que détient la France, des fonds marins, des matières premières, et tout ça qui se font aux yeux du positionnement géopolitique de la France.
Merci beaucoup, Assaï.
Et pour rajouter, parce que tu as vu, pour que ça soit des chiffres vraiment très précis et que vous ayez vraiment une vision de ce qui se passe ici dans nos territoires, il y a la carte qui est là, qui montre à peu près autour du bassin méditerranéen toutes les entreprises qui sont en lien avec l'industrie militaire. Okay. Et pour encore un chiffre qui pourrait parler, la France, c'est le deuxième plus grand importateur d'armes. Ça veut dire que quand il y a 1000 personnes qui meurent, la France est responsable de 100 personnes. Donc c'est là aussi où, avec FECLAM, Femmes contre l'armement, on interroge ici notre responsabilité ici, des gens du Nord, par rapport à ces entreprises-là, avec lesquels on a signé notre capitalisme, avec lesquels on a signé notre impérialisme et nos modèles de consommation qu'on est aujourd'hui en train de redessiner et de pouvoir au moins se les échanger. Parce qu'avant, les gens, quand ils disaient « je veux manger du bio », c'était des hippies ou c'était des bobos. Donc voilà. Et vraiment, pour les gens qui sont présents ici ce soir à la FRAT, de bien garder en tête le bassin méditerranéen et son engagement vraiment très très engageant, et aussi que quand il y a 1000 personnes qui meurent dans le monde, la France, elle est responsable de 100 morts.
Merci beaucoup au collectif Femmes contre l'armement. Ça nous fait beaucoup d'infos d'un coup. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette première partie. Avant de passer à la suite, je vous propose une pause musicale. Et on a choisi l'artiste Saint-Levant, qui est algéro-palestinien, et donc sa chanson Deira. Et pendant la pause, j'invite Maïlys, qui a fait tomber son permis de conduire, à venir le récupérer à la tribune. Profitez bien de la musique, on se retrouve dans quelques instants. Toujours sur Radio Galère
88.4. انتي مين؟ راح احكي لكم عن قوتهم وكيف احفادهم صامدين.
فات الوقت يا عمري راحوا سنين ما ناسي هدي عوام را الخطر مجروح فات الوقت يا عمري راحوا سنين ما ناسي هدي عوام را الخطر مجروح